From the gouvernement du Québec.
And Jerry Hemingway on the drums, and we heard the title track from their Songlines release entitled Recoder. Whew, long set there here on Jazz Amok. My name is Lawrence, and we're going to continue with some free improvisation. A couple of free improvisation tunes are up next, and we're going to start with the trio calling themselves Moniker, Scott Thompson on the trombone, Arthur Bull on the guitar, and Roger Turner on the drums, and we're going to hear from their latest CD out on the Bug Incision label. The recording is titled Library, and we're going to hear the track entitled More Books here on Jazz Amok on CKUT. Thank you.
Is in our hands. Now more than ever, the COVID Alert app on my phone notifies me if I've been in contact with someone who recently tested and declared positive. Protecting my health and that of my loved ones is at my fingertips. I can simply download the COVID Alert app, an app that respects my privacy. Visit quebec.ca/COVID alert to learn how to download the app. A message from the Gouvernement du Québec.
Make sure my levels are at around 8.
CKUT 90.3 FM.
Blah, blah, blah.
It's kind of a tongue twister.
Am I popping my peas?
CKUT 90.3 FM.
Start again.
Oh, should I do that? Okay.
I need a script.
CKUT 90.3 FM.
I So, you want me to go through it again and actually say that?
This sounds so repetitive.
See, now I can't do it. Once more, okay.
CKUT 90.3 FM.
Oh, I'm sorry.
Wait, wait, do you want me to say hello?
I'll have to do another one.
Yeah, maybe one last one.
Radio CKUT 90.3 FM.
Are you recording? You are? Oh. Can you press stop?
Thank you.
That is the improvising quartet that call themselves Company, basically an idea developed or implemented, or developed and implemented, I guess, by Derek Bailey, creating ensembles and I guess festivals entitled Company, where he would take a bunch of musicians who had not necessarily played with each other a lot in the past or even from similar genres and just throw them together and let them improvise and see what happens. So there's a large number of Company recordings throughout the years, most of them on Derek Bailey's Incus recording label, a label he ran right up to when he passed away, I think back around 2005. In any case, this one was not on his Incus label, but was rather on ECM Records, a Company recording, which featured in this case the quartet of Derek Bailey on electric guitar, Evan Parker on soprano saxophone, Jamie Muir on percussion, and Hugh Davies. They're doing some live electronics. We heard a track entitled Dragon Path from the ECM recording, simply entitled The Music Improvisation Company. Prior to that, we heard another improvised trio, Scott Thompson on the trombone, Arthur Bull on the guitar, and Roger Turner on the drums. I guess it's fair to say influenced by some of Derek Bailey's earlier work on free improvisation, sort of mining similar territory in slightly different ways, making the music their own, I guess. So the moniker trio recording we heard is Librairie on the Bug Incision label, and we heard the track called More Books. That about wraps it up here on Jazz Amok this morning. My name is Lawrence, your longstanding host, John B. We'll be back next week. You can, of course, pick up an archive of this show if you'd like to hear it again or miss some of it, or indeed an archive of any show going back over the last few months here on CKUT by going to our website at ckut.ca, where you can also stream this here radio station live. Of course, we're also on the FM band in Montreal at 90.3. We're going to go out with a track from the same group with which we started the show, the Les Paul Trio, from the legendary Fred Waring broadcast, old radio broadcast compilation. And we're going to hear the Les Paul Trio's version of the old chestnut, Body and Soul. Thanks for listening.
Newton on bass give an interpretation of Body and Soul. Yeah, that's it. Thank you.
You are listening to CKUT 90.3 FM.
Welcome to Legalese, a broadcast about law cast broadly. Bienvenue à Legalese, une émission consacrée au droit qui vise à en rendre le jargon plus accessible tout en évaluant de manière critique ses institutions. I'm Christophe, and I'll be your host for this month's edition of Legalese. This month, we are discussing Quebec's Bill 21, La loi sur la laïcité de l'État. But first, some context and a trip down memory lane.
C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement.
Fait qu'on vient d'entendre le premier ministre qui est Jacques Parizeau le soir de l'échec référendaire en 1995, qui déjà là, nous exprime qu'au Québec, la construction d'une minorité entre des grands projets nationaux puis les minorités ethnoculturelles, ben c'est un phénomène qui date. Puis, bon, c'est pas une trajectoire qui est typiquement québécoise. Tout le monde sait, un populisme de droite qui se répand puis qui aime bien s'articuler autour d'une rhétorique islamophobe. Ben, au Québec, les conversations sur le multiculturalisme sont peut-être plus wack qu'ailleurs. Donc, on a déjà un gros coup d'envoi au début des années 2000 avec le débat sur les accommodements raisonnables qui est repris, en fait, par les partis québécois qui, en 2012, adoptent la Charte des valeurs québécoises, a.k.a. la charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes, et encadrant les demandes d'accommodement, qui seraient au final jamais adoptées parce que le gouvernement minoritaire de Pauline Marois est renversé. Donc ensuite, c'est au tour du Parti libéral du Québec, 3 ans plus tard, d'adopter la loi 62, qui interdit aux fonctionnaires puis aux usagers et usagères le port de vêtements qui dissimulent le visage au moment de l'octroi ou de la réception des services publics. On comprend tout qu'on parle du niqab puis de la burqa ici. Fait que c'est une loi qui target les femmes musulmanes. Puis ben finalement, c'est un troisième parti politique, la CAQ, qui fait culminer tout ça en adoptant le projet de loi 21 que le premier ministre François Legault annonce sur son Facebook en mars 2019.
Bonjour tout le monde. Jeudi passé, le gouvernement a déposé un projet de loi sur la laïcité de l'État. J'ai envie de dire, enfin, c'est un débat qui dure depuis plus de 10 ans. Il est temps qu'un gouvernement mette en place des règles claires pour tout le monde. Il faut être clair, la laïcité ne va pas à l'encontre de la liberté de religion. Chacun va rester libre de pratiquer la religion de son choix. Mais il faut fixer des règles, et c'est ça qu'on fait. C'est une approche qui respecte notre histoire, nos valeurs, et c'est une approche qui respecte ce que souhaite une grande majorité des Québécois. Pour éviter des longues batailles juridiques, on a décidé d'utiliser la clause dérogatoire dès l'adoption du projet de loi. C'est un outil légitime qui a déjà été utilisé par René Lévesque et par Robert Bourassa. Au Québec, ça fait longtemps qu'on a décidé de séparer la religion et l'État. Et ça fait plus de 10 ans qu'on débat des signes religieux. Il est temps de fixer des règles, parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit.
In its simplest form, Bill 21 prevents public service employees from wearing religious symbols and prevents citizens from receiving services with their faces covered when it is necessary to verify their identity or for security purposes. The Legault government has shielded the legislation from scrutiny under the Canadian and Quebec charters through the use of notwithstanding clauses. This stops individuals from challenging the bill on the grounds of religious freedoms, equality, and life, liberty, and security of the person. It's unclear how the notwithstanding clause functions in conjunction with Section 28, the gender equality provision, and similarly with Section 24(1) that deals with compensation for breaches of charter rights. Religious symbols have not been defined in the Act, and commentators have warned that this will lead to unequal enforcement. The government has said that a common-sense approach to what a religious symbol is will be used. However, this seems to favor the dominant religion of Christianity, allowing items such as wedding rings and religious effects which are easily hidden. I'm thinking crosses. This disproportionately affects Muslim women, Sikhs, and Jewish persons whose faith requires that they wear visible religious effects. Bill 21 came into effect on June 16, 2019, and within the next 24 hours, there was already a complaint before the Quebec courts. Ishrik Haq, with the support of the National Council of Canadian Muslims and the Canadian Civil Liberties Association, filed a constitutional challenge and an application to suspend the operation of the bill. The Quebec Superior Court denied this application, and the Quebec Court of Appeal upheld that decision. However, all three judges at the Court of Appeal agreed that the bill creates prejudice sérieux et irréparable. The Chief Justice Nicole Duval-Hessler dissented, finding that il faut en conclure que l'article 6 de la loi paraît limiter de manière disproportionnée et de façon immédiate les droits des femmes à l'égalité et à la liberté de religion. Hearings on the merits began on the 2nd of November and will continue for 5 weeks. You've been listening to an interview with Legalese on CKUT 90.3 FM. The hearing on the merits have been met with fierce resistance. Within the McGill Faculty of Law, 500 students, professors, staff members, alumni, and clubs are formally asking that the CAC repeal Bill 21. On the first day of the hearings, the Muslim Law Students Association and RAD Law co-organized a sit-in at the Palais de Justice.
I can't aspire to become a Crown Prosecutor. I can't work for any provincial commission, for example. This places an arbitrary glass ceiling on somebody who wants to be religious, but also is capable of being religiously neutral and who wants to serve the public, and that's just unfair. In law school, we're taught that impartiality isn't just about appearance. It's about how one conducts themselves and how one behaves and one acts. It is not about these superficial symbols. I've worked in the federal government, and I'm fully capable of working in the Quebec public sector. I want to be able to serve the Canadian public. Canada is my home. I value being in a pluralistic society, and honestly, it's so like discouraging that people think that by being a Muslim woman and being a visible Muslim woman, that I'm incapable of fulfilling a certain job.
That was Khadija Ahmed, representing the McGill Law Muslim Students Association outside the Palais de Justice. A lot of us immediately called Bill 21 for what it is, a legalization of systemic oppression, mandating discrimination on the basis of race, religious beliefs, class, and gender. And all that in the name of supposed neutrality and laïcité. We discussed with Professor Vincent Romani on the coded racism encapsulated within the bill and the semantic slipping of the concept of laïcité.
Bonjour, Vincent Romani. Vous êtes professeur à l'UQAM, affilié au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté et à l'Institut de recherche et d'études féministes. Vous vous intéressez à la violence politique, à l'orientalisme et aux études critiques de la blanchité et de la race, notamment. Et vous avez publié cette année avec des collègues « Modération ou extrémisme, regard critique sur la loi 21 » que vous avez co-dirigé et dans lequel vous signez le chapitre « Loi 21 québécoise et l'indicible mot en R, réfuter le racisme pour mieux dominer ». Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, en fait, ma première question, c'est sur le 7e chapitre, donc de Leila Benadjoudja et de Leila Silis, « Colonialité du pouvoir au temps de la loi 21 ». Alors, ben, la thèse de ce chapitre-là, en fait, c'est que la loi 21, elle opère simultanément là, sur du sexisme, du racisme, du capitalisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là quand on dit que la loi 21, c'est un projet colonial?
Alors bonjour tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation qui me fait beaucoup d'honneur. Je rappelle, comme vous l'avez rappelé, mais j'insiste toujours que je ne suis qu'un transmetteur de savoir, un co-ordinateur d'un ouvrage collectif avec d'autres collègues et que donc j'ai vraiment un devoir important en fait de représentation et de ne pas en fait invisibiliser mes autres collègues qui, pour Leïla Sélis, en fait, n'a pas pu se libérer. Concernant justement le chapitre qu'elle a co-écrit avec Leïla Benhajouja, elle met en avant cette notion de colonialité du pouvoir qui permet en fait à un collectif qui a le pouvoir en fait de s'arroger le droit en fait de décider à la place des autres qu'est-ce qu'ils doivent porter, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas porter, quel est le sens de leur vêture. Dans quelle mesure on va décréter qu'ils sont ou qu'elles sont, en particulier les femmes musulmanes, mais pas que elles. Quel est le sens en fait à donner en fait à leur choix, à la fois vestimentaire, à leur choix existentiel, à leur choix intime, à la définition de leur intimité et à la définition de leur domination. Et cela, s'arroger le droit de le faire sur elles, on va le faire sans elles. Voilà, c'est ça la notion de colonialité du pouvoir qui est dans l'analyse en fait de Leïla Benhajouja et Leïla Sélis. C'est l'idée de s'arroger le droit de dire l'autre à sa place.
Dans votre chapitre, vous faites quand même un petit peu aussi sur cette idée-là. Puis vous abordez le concept là, du racisme culturel et religieux. Puis moi, j'aimerais qu'on le définisse, puis aussi qu'on le croise avec le concept de la laïcité, particulièrement de la transformation de ce concept-là qui est comme plus du tout le même que celui pour lequel on militait pendant la Révolution tranquille. Puis je pense que c'est important de faire cette distinction-là parce qu'il y a beaucoup là, de personnes qui supportent la loi 21 puis qui se réclament de cet héritage-là.
Oui, je vais prendre la réponse à cette question ou une tentative de réponse parce qu'évidemment, c'est extrêmement compliqué. Ou dans le résumé des travaux antérieurs qui ont été faits par beaucoup d'autres que moi. Mais je pense qu'il est important de commencer par cette notion d'évolution, en fait, de trajectoire historique de la laïcité dans un contexte où initialement, elle était conçue d'une manière institutionnelle, premièrement, où il s'agissait en fait de dégager institutionnellement ce qui appartient en fait à l'état civil par rapport à l'institution ecclésiale qui était l'Église. Et donc on avait vraiment une approche qui premièrement était institutionnelle, hein, de dégager en fait les conflits d'intérêts et de dégager deux identités politiques ou sociales différentes, d'une part celle de l'Église et d'autre part celle d'un état civique et civil qui revendique une distinction par rapport à une religion institutionnalisée comme l'Église catholique. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Par comparaison, évidemment, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. Il s'agit non pas de traiter entre institutions, mais de traiter de le rapport à l'État des individus citoyens, des individus employés. Donc là, vous voyez ce premier décalage. Le deuxième décalage, en fait, de cette évolution, de cette trajectoire de la laïcité. Et donc là, je parle sous le contrôle, évidemment, de Jean Bobéro en France, qui a travaillé sur l'histoire de la laïcité, et sous le contrôle, évidemment, également de Micheline Milhaud, qui est à l'UQAM, a beaucoup travaillé sur l'histoire de la laïcité. Elle a fait toute sa carrière, en fait, pour expliquer ce que j'essaie de retranscrire, cette notion, dans ce deuxième déplacement, que la laïcité est d'une notion d'ouverture, en fait, qui permettrait à toutes les religions d'exister, à tous les individus de pratiquer leur religion, y compris dans l'espace public, autant que dans l'espace privé, est devenue quelque chose de beaucoup plus coercitif à mesure que cette dimension libérale disparaissait et à mesure que croissait tout un ensemble de préoccupations, de panique raciale, de panique identitaire au Québec, à partir de la décennie, on va dire, 90. Donc à mesure en fait, que disparaissait la question politique de l'indépendance, beaucoup de personnels politiques faisaient apparaître cette notion de fragilité identitaire associée à l'immigration. Et là, on a quelque chose qui est très problématique, puisqu'il s'agissait aussi d'un déplacement de la préoccupation nationaliste québécoise, où l'objectif d'une souveraineté disparaissant, il s'agissait de faire oublier la disparition de cette impossibilité d'une souveraineté en trouvant quelque part des boucs émissaires qui n'étaient plus les anglophones dominants. Ces ennemis, en fait, ou ces menaces, ou ces risques, devenaient des boucs émissaires beaucoup plus faciles, qui étaient donc les migrants. Mais ça repose évidemment sur une supercherie, sur la vision d'une histoire linéaire qui fait apparaître la question migratoire au Québec comme étant un problème de personnes racisées, qui permet de faire oublier la dimension coloniale de l'histoire du Canada, qui inclut l'histoire du Québec, et qui est une histoire de blancs européens, anglophones comme francophones, qui est une histoire de blancs chrétiens, qui arrivent en fait dans un pays où des hommes et des femmes brunes, racisées, ou qui seront racisées, existaient depuis plus de 10 000 ans. Et donc, si on oublie cette histoire de plus de 10 000 ans d'existence, en fait, de multiples sociétés de femmes et d'hommes bruns sur l'île de la Tortue, le Canada, si l'on oublie, si l'on apprend à ne pas savoir, à oublier, à ignorer le fait que ces colons blancs européens se définissaient dans la blanchité par opposition en fait à ces autochtones, à ces premiers peuples, par opposition aux esclaves noirs que ces mêmes colons européens ont importés au Canada pendant 2 siècles. Et donc, si l'on fait oublier en fait qu'il y a des milliers d'esclaves noirs qui existaient dans les premiers siècles d'existence du Canada, si l'on oublie enfin d'autres dimensions de l'histoire raciale du Canada, que des Asiatiques sont par milliers dès le 19e siècle, que des populations moyen-orientales arrivent au Canada dès la fin du 19e siècle par milliers également, eh bien, si l'on oublie d'une manière systématique, d'une manière stratégique, parce que toutes ces dimensions-là sont systématiquement évacuées des programmes scolaires, sont évacuées de l'histoire culturelle, sont évacuées des musées, sont évacuées de toute cette dimension-là qui permet de se créer une identité blanche. Si tout cela est oublié, bah, on permet d'imaginer en fait et de créer de nouveaux enjeux qui seraient liés aux personnes migrantes, aux personnes non blanches qui interviendraient seulement dans l'existence en fait au Québec dans les décennies 80-90. Alors, voilà tout le détour qu'il était nécessaire de faire avant de revenir en fait à la réponse à votre question de ce déplacement historique de la notion de laïcité, en fait comment elle finit par s'indexer à la question raciale alors que ce n'était pas le cas au début. Le conflit politique se développait entre une église qui perdait son pouvoir politique sur la société et un état civil qui entendait le disputer à l'église et le conquérir, ce pouvoir, alors que dans l'univers colonial de ces mêmes métropoles, la direction, le pouvoir, la coercition, l'oppression contre les peuples colonisés étaient confiés aux églises, en fait. Donc c'est un pouvoir politique qui était confié contre des groupes et des sociétés racisées à l'extérieur des métropoles, alors qu'à l'intérieur des métropoles, on mettait en avant une laïcité blanchie. Vous avez en fait tout un tas d'exemples dans l'histoire des racismes, en particulier des racismes d'État, qui montrent en fait comment des groupes religieux peuvent être totalement biologisés par tout un ensemble d'artifices où l'on demande en fait à des groupes de se comporter d'une manière, de porter tel ou tel vêtement ou de ne pas porter tel ou tel vêtement. Ça, c'était le cas de l'Espagne catholique pendant plusieurs siècles contre les descendants des Juifs et des musulmans qui avaient réussi à rester en Espagne, même en se convertissant. On les pourchassait en permanence pour savoir s'ils étaient vraiment convertis. Il y avait le soupçon permanent qui pesait sur eux, ça a duré des siècles, après avoir déporté en masse, premièrement, toutes les personnes juives et musulmanes. Donc, seuls et celles qui s'étaient convertis ont pu rester. C'était des personnes qui étaient éduquées. Et donc, il a fallu que l'Espagne catholique mette en place, à travers les municipalités, les principautés, un certain nombre de lois d'interdiction d'accès à des métiers pour permettre en fait aux personnes qui n'étaient pas d'origine juive, qui n'étaient pas d'origine construite musulmane, pour permettre donc l'accès à des corps de métier et interdire donc toute ascension sociale en fait à ces groupes qui étaient mécaniquement racisés, je veux dire. C'est-à-dire qu'on a créé tout un ensemble d'indices biologiques, d'indices matériels pour permettre de dire qu'ils étaient juifs ou qu'ils étaient de sang impur. Et donc c'est encore un paradoxe que l'on entend aujourd'hui. Toutes les discussions autour de l'islamophobie articulent l'hérédité, le biologique et le culturel. Et donc c'est une erreur en fait de penser l'histoire du racisme comme une séquence où l'on verrait d'abord un racisme biologisé de type nazi, avec aujourd'hui un nazisme qui serait seulement culturel, c'est-à-dire qui ne s'intéresserait qu'aux croyances et aux pratiques religieuses ou aux origines culturelles en fait, des groupes visés, des groupes racisés, alors qu'en fait l'imbrication du culturel et du biologique existe dès le départ.
Dans le fond, moi aussi, j'avais envie que on parle particulièrement là, de la dernière partie de votre chapitre qui s'appelle « Sur le travail permanent d'ignorance active ». Il y a beaucoup de mobilisation en ce moment sur le campus de la faculté contre la loi 21. Puis bon, cette mobilisation-là est surtout virtuelle parce qu'on est dans une drôle de pandémie. L'ignorance active, elle s'est déchaînée là, sur toutes les plateformes auxquelles on participe. Puis c'est juste excessivement épuisant. Vous abordez cette notion-là, notamment en distinguant le non-racisme de l'antiracisme. Puis aussi, vous parlez de la notion de codage, qui serait le camouflage des effets racistes de pratiques par des justifications vertueuses en apparence, donc neutralité, objectivité, on vient de le nommer, le laïcité. Fait que c'est quoi ce travail permanent d'ignorance active-là? Puis comment est-ce qu'il s'incarne dans la loi 21 puis dans les conversations publiques là, qui s'y attardent?
Donc, bah, c'est pas moi qui ai inventé cette notion-là, ce sont vraiment, c'est toute l'expérience en fait de l'esclavage et du racisme subi par les afro-descendants, les noirs états-uniens et nord-américains, plus largement même au Canada, et donc toute leur théorisation de cette blanchité suprémaciste. Hein, donc je répète que à l'instar de Sir Mabilgue et de toute cette littérature des études critiques de la race, que la suprématie blanche, ce ne sont pas les néo-nazis. Armées qui veulent faire des attentats, c'est un système de domination blanche généralisée. Donc, c'est ce qui caractérise nos sociétés à tous les niveaux. Et donc, ce travail de suprématie blanche repose sur plusieurs mécanismes. Parmi ces mécanismes, il y a par exemple cette notion de fragilité, c'est-à-dire de retournement, en fait, d'inversion de la domination. Ça, c'est un classique. Mais pour prétendre qu'on puisse être ultra-dominant, avoir le pouvoir à tous les niveaux les plus puissants, à tous les leviers, à tous les carrefours, à toutes les institutions, en fait, vous prenez n'importe quelle institution, vous regardez comment est distribué le pouvoir, et vous avez les personnes qui balayent tout en bas, qui sont racisées et précaires, et vous avez le pouvoir des conseils d'administration qui est assez uniformément composé d'hommes blancs. Et pour ne pas voir ça, il faut créer aussi un mécanisme d'ignorance, en fait. Alors, ça fonctionne sur plusieurs niveaux. Cette fragilité va avoir besoin de l'ignorance pour être niée et permettre la domination. C'est comme une triangulation. Il y a une domination factuelle, un retournement psychique de ce fait, en fait, suprémaciste, crée l'idée de fragilité ou de faiblesse ou de risque. Et le verrou, en fait, c'est l'ignorance. Le verrou, c'est ça qui fait tenir tout ça ensemble. Et ça prend, alors ce que disent en fait les intellectuels afrodescendants, ça prend beaucoup plus que ne pas savoir. Ça prend quelque chose d'extrêmement actif, en fait. Et donc, c'est pas des non-décisions. C'est pas contourner quelque chose. C'est décider que dans les programmes scolaires, on ne va pas parler de l'histoire de l'esclavage. C'est décider qu'on va utiliser tel mot et pas tel autre. C'est décider que notre muséologie et nos musées vont traiter de l'histoire de nos pays de cette manière et pas de telle autre. Et enfin, on peut remonter un peu de tout ce qui est de la production culturelle en fait, d'une société. À la télévision, au cinéma, au théâtre, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Edward Said appelait les archives culturelles d'une société. Si on va voir un auteur comme Fegin, en fait, qui est un théoricien afro-descendant du cadre racial blanc, comment je vois en tant que blanc, comment les blancs voient leur société et la construisent avec un regard qui fonctionne par projecteur et par angle mort, il montre en fait que c'est la répétition permanente. En fait, il va aller chercher même jusqu'aux neurosciences pour montrer que pour blanchir le monde, ça va prendre une répétition constante en fait, de l'idée que nous sommes dans une société blanche, que les personnes non blanches ne comptent pas dans la construction de nos identités. Et ça va prendre multiples supports. Et donc, c'est ça l'idée que l'ignorance active, elle est construite par tout un ensemble, des milliers en fait, de personnes qui prennent des milliers de décisions chaque jour pour savoir ce qu'ils vont transmettre comme image de leur propre société. Alors, il faut vraiment s'imaginer à la place d'un groupe dont on va commencer à se saisir de l'existence et dont on va commencer à se poser des questions sans eux sur leurs qualités humaines, en fait, leur égale qualité humaine.
Fait que dans le fond, j'avais envie de conclure l'entrevue par en récitant l'extrait par lequel vous avez conclu votre chapitre, en autorisant le mépris contre certains groupes avec leur discrimination légalisée, puis en condamnant les pratiques extrêmes pourtant congruentes avec ce dispositif. Le gouvernement fait mine d'éteindre un incendie qui l'alimente en même temps. Cet extrémisme modéré a pour fonction stratégique de conforter la blanchité hégémonique et ravive une question à laquelle Frantz Fanon répondit par la négative. Si le racisme souffre plusieurs modalités et localisations, existe-t-il pour autant des degrés au racisme? Ainsi qu'un premier ministre du Québec affirme le 18 juin 2019 que pour éviter les extrêmes, il faut en laisser un peu à la majorité et permet que l'on interprète le « en » de sa phrase et son propos comme octroyant à la majorité un droit au racisme. C'est quoi le mal que ça nous fait, la loi 21, collectivement?
Oui, ben j'aurais envie de dire, c'est une question qui est bouleversante en fait, quand on réfléchit à ses implications, mais je vais vous dire qu'elle est d'autant plus bouleversante que la réponse ne peut pas être la même pour la majorité blanche et pour ceux qui subissent matériellement le racisme. Là où des personnes blanches, cette loi va travailler l'image qu'ils se font de leur société, soit qu'ils vont être contents qu'en fait de vivre dans une société où l'on exclut, on minorise, on infériorise en fait des groupes qui ne sont pas blancs, soit même qu'ils soient contre cette idée parce que ça, là, quand ils se regardent dans une glace, dans un miroir, ils ne sont pas contents de l'image que ça donne de leur propre société. Et on n'est pas du tout dans le même ordre de conséquences pour les personnes qui subissent matériellement en fait, ce racisme. Les conséquences, en fait, c'est très prosaïquement. L'idée que l'on puisse discuter de l'opportunité, de la manière de se vêtir, de la légitimité d'une personne voilée musulmane, par exemple, ou d'une personne qui porte un turban, ou d'une personne qui porte une kippa, eh bien, le mal est fait. Le mal est déjà fait avant même que la loi agisse, puisque a été légitimé un débat sur la légitimité d'exister de ces personnes, sur leurs égales compétences, sur leur capacité à exister dans l'espace public et en tant que fonctionnaire de l'État, en tant qu'employé. Le mal est déjà fait puisque le gouvernement a décidé que l'on pouvait discuter de l'égalité de cette personne, de leur légitimité d'exister dans l'espace public, de leur légitimité nationale. Mais elles sont d'ordre puissamment matériel, elles raccourcissent des vies, en fait. Elles privent d'accès aux soins, à l'éducation, au développement économique, à l'ascension sociale, toutes ces catégories visées par la loi. Et donc, c'est une loi qui est profondément... qui repose sur une manière de penser, mais qui met en application quelque chose de profondément divisif, hiérarchique et problématique.
That was Professor Vincent Romani talking to Legalese's Audrey.
This is Nancy from Not You, and you're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal, Quebec.
Welcome back. Since Bill 21 became law, teachers and students who wanted to teach in Quebec have had their dreams destroyed. Maître William Corbatly normally practices business law and arbitration, but as more and more people had questions about the law, he stepped up to help them navigate their rights in Quebec. Legalese's Michel reached Maître William Corbatly to talk about the ongoing trial.
Mon nom est William Corbatly, je suis avocat. Je pratique moi principalement en droit des affaires corporatif et des OBNL.
Depuis le Bill 21, la loi, le projet de loi 21 est devenu loi. Vous avez fait des activités pour soutenir des gens. Est-ce que vous pouvez parler pourquoi vous faites ce travail-là?
Oui, parce que, encore une fois, évidemment, avant l'adoption de la loi, j'ai fait... plusieurs conférences pour expliquer on va voir quoi dans cette loi et on attend à quoi. Alors, c'est toujours, je suis toujours sollicité, surtout dans la communauté musulmane, pour venir et leur expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est quoi